Donc, on s'est arrêté au verset 31, la dernière fois. Il nous reste donc la section jusqu'à la fin de la péricope, jusqu'à 40. Ça va ? Et évidemment, avec les petites questions qui allaient avec dans le questionnaire. Donc, comme il ne s'agit pas d'une nouvelle péricope, je ne vais pas faire d'introduction du style à quoi sert la péricope qu'on est en train d'étudier, on l'a déjà fait. Donc, on se raccroche à la suite de ce qui s'est passé la dernière fois, où on a vu Philippe envoyé carrément en mission au sud de Jérusalem, sur la route qui mène à Gaza. Je vais peut-être quand même juste préciser une chose, c'est que je me suis quand même documenté un peu. Il y avait deux voies romaines qui allaient vers l'Égypte. Une qui passait le long de la côte par Gaza, et l'autre par la vallée, par Hébron et les vallées. Voilà. Donc, et c'était des routes officielles de l'Empire romain. Voilà pour la petite histoire. Alors, on a vu que Philippe est donc envoyé dans l'inconnu, qu'il rencontre finalement une caravane appartenant à un haut fonctionnaire étranger, éthiopien, et il entend, donc l'esprit lui dit « va, cours », etc. Il entend cet éthiopien s'exprimer en grec en lisant un passage d'Ésaïe. Voilà où on en est. Et donc maintenant, on va essayer de travailler un petit peu sur qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là. Et si vous le voulez bien, je vais commenter. Alors ça dépend dans nos. On va peut-être quand même lire le texte. Et je commenterai ce qui s'y passe. Donc si quelqu'un peut lire à partir de 32, c'est très bien.
Je peux, je le fais.
C'est quel chapitre ?
9.
Oui, dans le 8-32.
Je commence ? Ça va, Robert ?
J'étais pas sûr. Oui, toujours. Mm-hmm.
Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
Donc, on a, verset 32, quelque chose qui, en français, est peut-être pas aussi limpide qu'il ne l'est dans le grec. On nous dit, bon voilà, c'était ce passage de l'Écriture qu'il était en train de lire, deux points, ouvrons les guillemets et on te file deux versets d'Ésaïe. Mm-hmm. D'accord ? Mais, en grec, le mot « passage », c'est un mot qui est un peu difficile à traduire, « périoké », qui indique un contenu. C'est-à-dire, l'idée, c'est que Philippe entend un petit bout d'un plus grand passage. D'accord ? C'est ça que dit le grec, en fait. Donc, il entend deux versets qui font partie d'un tout beaucoup plus large. Et du coup, il faut comprendre qu'en s'approchant et ayant entendu ces quelques phrases de la lecture de l'Éthiopien, qui correspondent donc au verset qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire Ésaïe 53, versets 7 et 8, il sait immédiatement qu'est-ce que cet homme est en train de lire. Il est en train de lire le plus beau passage du quatrième chant du serviteur souffrant. Or, ce chant commence au chapitre 52, dans nos Bibles actuelles, hein, chapitre 52, verset 13, et se termine au 53, verset 12. Donc, il est en train de lire dans un parchemin qu'il a peut-être acheté le week-end pascal à Jérusalem. Il est en train de lire un parchemin grec qui parle du quatrième chant du serviteur souffrant. Et du coup, on comprend peut-être un peu mieux la suite, c'est-à-dire, quand il est dit que c'est sur ce texte que Philippe va parler, c'est pas sur ces deux versets, c'est sur l'ensemble du quatrième chant du serviteur souffrant. Ça, c'est quand même intéressant. Et donc, nos versions en français laissent planer un doute sur c'est quoi qui sert de commentaire, finalement, sur quoi va s'accrocher Philippe pour démarrer une sorte d'évangélisation de l'Éthiopien en question. Il faut aussi savoir que dans les... Il y a plusieurs chants du serviteur dans Ésaïe, et que dans les passages précédents, et d'autres textes d'Ésaïe d'ailleurs, Israël est toujours présenté comme le serviteur de l'Éternel. Mais voilà que, à partir de 49.5, ça change dans le deuxième chant, Ésaïe distingue le serviteur du reste d'Israël. Ce qui rend les choses un petit peu plus délicates. Et en 53, donc là, ce qui est en train de lire l'eunuque, il spécifie même qu'Israël rejette le serviteur. Donc ça ne peut pas être le peuple. Ce n'est pas Israël qui est visé par le quatrième chant, mais quelqu'un, d'accord, un individu. Et c'est toute la question d'ailleurs de notre Éthiopien. Il ne comprend absolument rien à ce qu'il est en train de lire, parce qu'il ne sait pas de qui on parle. Qui est ce serviteur souffrant, finalement? En plus, c'est un serviteur particulier, parce qu'il porte les péchés d'Israël, il porte les péchés du peuple, etc. Au verset 9, d'ailleurs, du passage, il est déclaré non coupable. On ne l'a pas lu, hein, puisqu'on n'a pas Ésaïe sous les yeux. Et au verset 12, il parle même de l'abaissement volontaire de ce serviteur souffrant. Donc toute une série de concepts qui, pour un prince, si vous voulez, un ministre d'un royaume quand même assez conséquent, avec ses paramètres à lui de culture, il ne peut pas comprendre ce texte. Et je voudrais même ajouter que même un juif normal, non messianique, ne comprend pas non plus ce texte.
Ouais. Ben non. Il n'a pas reconnu le
oui, non, justement, il y a une clé de lecture qui manque. Donc, ils lisent le texte, vraisemblablement, mais eux non plus ne savent pas se projeter et dire ben, c'est qui le serviteur souffrant, en définitive. Puisque ce n'est pas Israël, c'est qui?
Et comment ils le traduisent alors?
Une excellente question.
Non, non, mais... Donc tu n'auras pas la réponse.
Mais non, justement, parce qu'il n'y en a pas. Non, c'est pas pour rien que certains textes sont volontairement occultés dans le judaïsme. Il y a des choses qu'on ne veut pas aborder. Non pas parce qu'on se douterait que c'est Jésus, loin de là. C'est parce que voilà, on ne sait pas l'expliquer, et puis on laisse tomber, puis c'est tout. Quoi. Et pourtant, Dieu sait si les Juifs sont assez férus.
Oui.
Au niveau explication du texte. Hein. Donc, la question de notre ami éthiopien, elle est légitime. De qui parle le prophète? De qui parle-t-il? C'est qui l'individu dont on parle? Et j'aimerais même dire, c'est la raison pour laquelle la venue de Philippe est providentielle. Il va se retrouver face à quelqu'un qui est capable de commenter ce texte obscur. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas la première fois qu'il lit Ésaïe non plus. Et donc, même s'il a cherché à Jérusalem une réponse à sa question, il ne l'a pas trouvée. Donc, verset 34, de qui parle-t-il? Et cette question montre que le texte lui demeure quand même hermétique, sinon il ne poserait pas la question. C'était un texte assez hermétique. Et puis on découvre aussi qu'il a bien compris, lui, qu'il ne s'agit pas du peuple d'Israël. Lui fait la même lecture que nous tous, finalement, mais de quelqu'un en particulier dont il ignore, lui qui fait partie de la noblesse, de la cour royale, etc., du royaume de Meroé, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent qu'un serviteur ait une mission aussi importante, tout en ne sachant pas de qui on parle, etc. Donc, à qui faut-il appliquer ce texte ? C'est ça sa question. Il veut absolument le découvrir. Et il se trouve qu'il est donc rejoint par ce juif qui comprend le grec. Et dès que Philippe a posé sa fameuse question, est-ce que tu comprends ce que tu lis maintenant ? Nous, on peut mieux comprendre que la question ne portait pas sur les deux versets, mais bien sur la totalité du quatrième chant. Hein, est-ce que tu comprends ce quatrième chant ? Et l'Éthiopien lui dire très sincèrement, non, je pige rien du tout et j'aimerais bien le savoir. Donc, c'est intéressant. Donc, au verset 35, on a une expression assez hébraïque. Hein. Philippe ouvrit la bouche. Alors, c'est ouvrir la bouche. Enfin, si vous me permettez une petite truc pour sourire. Encore heureux, sinon il aurait été ventriloque. Hein. Bon. Bon. C'est tout simplement une expression hébraïque qui souligne l'importance de ce qui va être dit par la suite. Bon, c'est comme si on disait, bon, maintenant, faites attention, ce que je vais dire est important. D'accord ? Donc, tout de go, alors que l'Éthiopien l'a fait monter dans son char, il commence à expliquer de manière très, très sérieuse le quatrième chant d'Ésaïe. Alors, on peut laisser ouvert l'idée que peut-être il se réfère à d'autres textes de la Torah. Peut-être. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est qu'il va profiter du quatrième chant. Essayez d'évangéliser avec les autres chants. Vous allez voir que ce n'est pas pareil. Mais là, le quatrième chant d'Ésaïe, c'est vraiment une opportunité en or de parler du Messie, parce que c'est lui le serviteur souffrant. Et donc de pouvoir présenter la vision qu'a la nouvelle voie du judaïsme au sujet du Messie qui serait venu. Donc Philippe prend le temps de lui expliquer ce qui se trouve dans ce chant. Et d'ailleurs en français, je crois, selon les versions, on nous dit « et partant de ce texte ». Alors ce texte, je ne rappelle pas les deux versets, mais l'entièreté du chant. Tout le texte, Philippe se sert donc de ce passage pour annoncer le Messie, la bonne nouvelle de Yeshua. Et voilà pourquoi Luc ne nous en donne pas le contenu. Parce que tout juif qui lit les Actes des Apôtres ou qui entend la lecture des Actes des Apôtres sait de quoi on parle. On parle du quatrième chant d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas trop interpréter. D'accord ? Donc, lui, il ne va pas. Maintenant, si les Actes sont lus dans le cadre de l'église de Jérusalem ou de toute autre église qui va naître en Palestine et ailleurs, ce qui se passe, c'est que tous ceux qui lisent, qui font partie de la voie messianique, savent aussi comment il faut lire le quatrième chant par conséquent. D'accord ? Parce que quand même, la manière dont Philippe va présenter l'évangile à l'Éthiopien, c'est la manière traditionnelle que les Juifs ont eue de présenter à leur propre col religionnaire l'évangile de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de secret, quoi. Alors, en gros, si vous voulez, si je suis un lecteur ou un auditeur juif, entendant lire les Actes des Apôtres, par exemple, je sais déduire quelle est la trame. Et la trame, c'est la présentation des souffrances du serviteur, qui correspond à Ésaïe 52, 14 par exemple, ou 53, les versets 3 et 10, où on spécifie bien quelles sont les souffrances même physiques et morales de ce serviteur particulier. Et puis, un serviteur quasi anonyme, méprisé par les hommes, dit le texte. Ça, c'est dans la partie 53 d'Ésaïe. Un serviteur qui porte volontairement nos maladies, nos souffrances et les conséquences de nos péchés. Un serviteur violenté, percé, dit le texte, brisé, châtié, maltraité, pour nos fautes. Il y a toujours cette insistance d'une médiation de ce serviteur souffrant. Un serviteur sacrifié, comme un agneau pascal, arraché à la vie avec violence, retranché, dit le texte, du pays des vivants, frappé à mort à cause des péchés. Toujours cette thématique qui est là. Ça, c'est toujours dans la partie du chapitre 53. Un serviteur innocent mis au tombeau, donc c'est-à-dire réellement mort, c'est ça que dit le texte d'Ésaïe. Un serviteur sacrifice de réparation, qui répare la relation entre Dieu et les hommes. Un serviteur dont le sacrifice engendrera une descendance parmi les Juifs, puis en dehors du peuple juif, ou l'Église, si vous voulez, universelle. Et un serviteur, le juste, dira le texte, qui, bien que mort, vit après la mort, il n'y a pas le mot résurrection évidemment dans Ésaïe, et qui accorde en sa vie le statut de juste aux humains qui sont pourtant coupables. Voilà toute la trame de la prédication sur base de ce texte d'Ésaïe que Philippe a pu développer. Alors peut-être s'est-il servi pour certains points de cette trame d'autres textes de la Torah pour légitimer telle ou telle chose. D'accord ? Voilà. Et donc, maintenant, si je me mets à la place de cet Éthiopien qui est d'origine païenne, bien que prosélyte, hein, qui a une affinité avec le judaïsme, on peut imaginer l'impact que ça a pour lui, d'entendre qu'il peut comprendre déjà un texte qui lui était obscur et que l'entendement vient du fait de reconnaître celui qui est le serviteur souffrant. Et je suppose, bien que Luc ne nous le dise pas, que Philippe aura insisté sur la dernière fête de Pâques, sur la Pentecôte, ou peut-être qu'il était peut-être déjà là, Pentecôte aussi, notre ami, etc. Et alors, vous savez que juste après ce verset 35, après avoir expliqué, c'est très lapidaire, il lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus, clic-clac. Et puis, on passe directement à l'idée que, poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau. Ça, c'est le verset 36 qui commence comme ça. Alors, ce qui est vrai, et ça, il faut en être bien conscient, on a beau être dans le désert, il y a effectivement quelques ouèdes, wadis en arabe, du côté de Gaza. Il y a plein de petites rivières qui coulent en saison des pluies. D'accord ? Et dans le désert, et moi, je l'ai vu de mes yeux, d'ailleurs, en Israël, ça aussi, cela suppose qu'il y avait de l'eau à ce moment-là. Alors, il faut savoir que les ouèdes sont torrentiels, et donc ils creusent des espèces de bassines, si vous voulez. Mm-hmm. Il y a des espèces de piscines naturelles liées à la force du courant en saison des pluies. Et donc, on peut imaginer que peut-être l'oued ne coulait plus, mais qu'une de ces bassines étant remplie, ils y sont allés, d'accord ? Cela suppose en tout cas une profondeur suffisante que pour effectuer un baptême juif par immersion. Car même si nous, aujourd'hui, on ne pratique pas toujours ce baptême-là, à l'époque, dans le monde juif, y compris dans la voie messianique, le baptême n'a de sens que s'il ressemble à ce qui se passe au mikvé, c'est-à-dire dans les bains rituels qui étaient tout autour du temple de Jérusalem et dans lequel on allait se purifier entièrement en descendant à pied à des escaliers, en remontant de l'autre côté après avoir été complètement submergé. D'accord ? Donc, rien d'étonnant à ce qu'il y ait de l'eau. Rien d'étonnant à ce qu'il puisse être baptisé du côté de Gaza. Et notez bien dans le passage que c'est l'eunuque qui demande le baptême. Donc, je ne pense pas que Philippe aurait forcé la main. Je crois sincèrement que l'eunuque a compris quelque chose d'essentiel et que du coup, lui-même propose d'être baptisé. En tout cas, cela nous montre qu'il comprend bien la tradition juive, qu'il connaît déjà par les ablutions rituelles, par exemple, mais aussi que sans doute Philippe lui a présenté le baptême en Jésus, lui a dit ce qui se pratiquait dans la voie messianique, etc. Et à nouveau, on découvre, avec cette dernière question de l'eunuque, hein, est-ce que je peux être baptisé, hein, on découvre que sa foi est très ardente, il a beau être haut fonctionnaire, il mord à l'hameçon et il souhaite aller jusqu'au bout, finalement, de sa découverte, la découverte de ce texte d'Ésaïe. Et on pourrait croire, enfin, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça, que dans sa question, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? Il avait peut-être peur qu'il n'y ait pas droit.
Oui, parce qu'il
vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il n'est pas vraiment juif, parce qu'il est d'origine païenne, et aussi parce qu'il est eunuque. Alors, on y reviendra dans un moment, mais c'est pas bon d'être eunuque en Israël. Donc, c'était pas très bien vu. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il... C'est pas un doute, mais il prend la précaution de demander s'il peut être baptisé. Pour ne pas choquer, peut-être, son interlocuteur, Philippe. Et il semble, en tout cas, que Philippe ait dû lui répondre du tac au tac, hein, puisque... Voilà, il donne l'ordre d'arrêter son char. Donc à la limite, on n'a même pas la réponse de Philippe que déjà, lui qui est tellement décidé, fait arrêter son char. Et tous les deux, dit le texte, descendirent dans l'eau.
Joséane a lu le verset 37 que supprimait...
Ok, donc ça, on va y venir aussi.
Oui, parce qu'il est marqué là, si tu crois de tout ton
cœur. Dans mon version, il n'y est pas.
Oui, mais le verset 37, dans la plupart de vos Bibles, c'est d'ailleurs... même pas existant. On passe du 36 au 38.
Ah
oui. Même dans la tome, dans la tome, tu as 37 avec une petite note. C'est très simple.
Ici, il est marqué.
Le verset 37 est manquant. Vas-y, tu peux le lire si tu l'as.
Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
C'est
37,
ça.
Ça, c'est 37. Oui, 37. Donc, on le zappe complètement.
Oui. Alors, pourquoi ? Non, il faut bien comprendre, ça a du sens. Ça a du sens d'un point de vue théologique. Donc, le verset 37 est manquant. Généralement, dans toutes les bonnes versions, on va l'enlever. Et la raison est simple. Ce texte n'existe que depuis le 2e siècle dans les manuscrits grecs. Donc, il n'est pas attesté par les plus anciens manuscrits, ni en grec, ni en hébreu, hein, ni en araméen, ni en quelque autre langue dans laquelle ça aurait pu être traduit. Donc il est manquant, c'est la raison pour laquelle la Tob l'a supprimé, que d'autres versions le suppriment aussi, tout en y ajoutant une note, parce que historiquement, ce texte a existé à partir du 2e siècle. Donc tu peux faire semblant qu'il n'a pas existé. Donc on explique pourquoi il n'est pas placé dans la Bible comme... un passage canonique, si vous voulez. Mais je pense que le fait d'avoir une note dans notre Bible, ou le texte lui-même, peu importe, c'est quand même intéressant, puisque ça nous donne le reflet de la pratique baptismale de l'Église primitive. Dans l'Église primitive, il y avait donc un questionnement et une réponse. Ou si vous voulez, comme maintenant. Exactement, dans l'histoire de l'Église. On voit bien que l'Église primitive a ancré quelque chose qui est resté dans la tradition de tous les baptêmes. On t'interroge sur ce que tu crois et tu réponds que tu crois. Et c'est au nom de cette croyance, de cette foi, qu'on te baptise, etc. Bon. Donc voilà pourquoi ça manque dans certaines de nos traductions, tout comme d'ailleurs dans certaines traductions, on met des grosses parenthèses autour de l'histoire de la... dans Jean, de l'histoire de la prostituée. Voilà, Jean 8, c'est par cœur, je crois.
La femme adultère.
Oui, la femme adultère.
Parce que ça apparaît.
Oui, parce que c'est pas totalement... voilà, enfin, bref, peu importe. Donc, et en même temps, je pense que ça nous ouvre à l'idée que quand on veut bâtir une croyance sur des textes qui ne sont pas attestés, oui, qui sont attestés tardivement, il faut faire très attention. Alors, pour moi, ça reflète l'histoire, notamment l'histoire de la pratique du baptême. À ce titre, ça vaut la peine d'être connu. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on passe du questionnement au baptême directement, sans aucune autre étape, et où on nous dit tous deux descendir dans l'eau. Donc, de nouveau, on a bien l'idée qu'il y a une profondeur. Tu ne descends pas dans une flaque d'eau. Donc, il y avait au moins 50-60 cm pour pouvoir se coucher dedans et être complètement immergé, par exemple. Donc, tous deux descendirent dans l'eau. Et Philippe baptise l'eunuque sur le champ. C'est-à-dire que là non plus, il n'y a pas de tergiversation, etc. Moi, je dirais, quel voyage incroyable vers le sud. C'est un voyage incroyable pour l'eunuque, mais tout aussi incroyable pour Philippe. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attend pas non plus à baptiser un ministre du sud. Alors, j'ai encore relu cette semaine la contrée d'où il vient, donc le royaume de Méroé, était considéré dans l'Antiquité comme la zone la plus éloignée du monde au sud. Donc vraiment, il vient du fin fond du monde, si vous voulez, ce gars. Donc, quelle incroyable histoire. Comment tu peux faire jusqu'aux pour rencontrer un gars qui vient d'un bout du monde, justement pour être baptisé, pour entendre l'Évangile et pour être baptisé. Sacrée histoire, quoi, quand même. Alors, bon, l'histoire n'est pas finie. Je ne sais pas comment vous avez interprété la suite de l'histoire. Nous, on a, enfin, dans la toque...
Oh, pardon, c'est bon.
Quand ils furent sortis de l'eau, donc ils remontent, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, ou l'enleva, ça dépend des traductions, et l'eunuque ne le vit plus.
Oui.
Comment vous concevez ça?
C'est fou, oui.
Alors, on peut presque se poser des questions de mécréants. Hein. C'est possible, ça? C'est possible qu'un gars disparaisse
Ben, comme il est apparu.
Oui, entre autres.
Il s'en va. Oui. Parce que là aussi, c'est...
Mais là, au moins, il courait après le char.
Ouais. Mais, Marie a vécu ça à l'Annonciation, le disciple de Emmaüs aussi.
Ah oui, c'était Jésus, c'était pas un ange. Ici, c'était ni l'un ni l'autre.
Alors, oui.
Philippe se trouva, tout d'un coup, paf, il se trouve ailleurs.
Voilà.
Comme Padre Mio.
Oui, comme si il apparaissait soudainement à un endroit, téléporté, etc. Ouais. Ok. Alors, maintenant, deux choses. L'une, où le texte enjolive la situation, pour nous faire apparaître ça comme un peu miraculeux, si vous voulez. Mais s'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez, dans le style littéraire de l'époque, on pouvait ne pas être totalement historique. Ce n'est pas un problème, on n'est pas dans le détail historique. On peut imaginer que ce soit possible, que Luc laisse planer une sorte de côté miraculeux à cette histoire, etc. En même temps...
Mais c'est plus important que Philippe soit encore là.
Non, de toute façon, sa mission est accomplie. On est tout à fait d'accord là-dessus. Hein. Sauf si tu veux... qu'on pourrait dire, oui, alors quand même, le texte a commencé par un ordre, hein, tu vas te rendre vers la route, là, vers le midi, du côté de Gaza, et Philippe part. Donc, il n'y a rien de miraculeux, sauf qu'il répond oui à un ordre bizarre. Bon. Okay. Par contre, la fin, la finale, c'est quand même... Pff, hein, bon. Donc, posons-nous la question, est-ce qu'il y a d'autres situations de ce type dans la Bible? Déjà dans l'Ancien Testament. Parce que là, vous avez déjà cité deux, trois textes du Nouveau.
Mais avec un successeur de Élie, Élie disparaît.
Okay.
Avec Élisée.
Okay.
La généalogie, il y en a un. Bon, on commence par M, mais je ne me souviens pas. On dit qu'il n'y meurt pas.
Melchisédek.
Melchisédek, si tu veux, c'est encore plus simple.
Merci.
M,
c'est plus simple. Mr. M. Donc, ces enlèvements, on va parler comme ça, ils existent déjà dans l'Écriture. D'accord ? Donc, pour une oreille juive, les enlèvements ont quelque chose de divin. C'est pas anodin. Hein, c'est pas de la magie. C'est une intervention spécifique de Dieu. Donc, on peut se dire que l'histoire soit réelle au sens historique ou pas, Luc dit ça s'est passé comme avant dans l'Écriture, d'accord ? Donc il y a une intervention divine qui fait que cet homme, l'eunuque éthiopien, a pu adhérer totalement à la voie messianique et repartir avec son, son cadeau, si vous voulez, dans son royaume. Alors, on a effectivement un certain nombre de textes. Il y a Élie au moins deux fois, dans un roi, par exemple, un roi 18, au verset 12. Je ne sais pas si quelqu'un veut aller plonger dedans, si vous pouvez l'avoir sous la main. On va quand même les passer en revue, c'est quand même intéressant. Un roi 18-12, peut-être qu'il faut prendre un peu le contexte si ça te paraît nébuleux.
Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui ne te verra.
Donc là, il s'agit, pour remettre ça dans le contexte, d'Abdias. Abdias qui est un messager ou un serviteur du roi Achab, si vous voulez, mais qui est profondément croyant. Et qui vénère Élie d'une certaine manière. Et il est à la recherche d'Élie pour lui délivrer un message du roi Achab. Et Achab souhaite qu'il vienne le rencontrer. Mais lorsque Élie répond à Abdias, il lui dit « Oui, mais même si tu venais, je ne suis pas sûr que tu ne disparaîtras pas. » C'est un peu ça qu'il lui dit. Quoi. Donc il sait déjà qu'avec Élie, il y a des choses bizarres qui se passent, d'accord ? Comme avec les prophètes de Baal, etc. C'est des histoires dingues, quoi. Et un petit peu plus loin, alors, dans le deuxième livre des rois, on découvre le récit dont vous avez fait allusion tout à l'heure, Élie qui est enlevé au ciel, dans l'espèce de transmission de son héritage prophétique à Élisée. Enlevé au ciel.
On voit partir, hein.
Oui, tout à fait.
C'est subi.
Un autre passage, alors vous remarquerez que c'est chaque fois des prophètes, hein, ces histoires. Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, dans les versets 12 et 14, on découvre qu'Ézéchiel, qui vit pourtant en Israël, n'est-ce pas, est transporté vers Tel Aviv. Ah, certains se disent, ce n'est que Tel Aviv, ça va. Sur Israël. Non, Tel Aviv en Mésopotamie, donc quand même assez loin du point de départ pour aller consoler les exilés. Voilà, Israël qui est en exil en Mésopotamie. Et il y a deux textes comme ça dans Ézéchiel qui en parlent. Dans le deuxième, c'est un transport où Ézéchiel reçoit une vision, puis il est transporté aux abords du temple de Jérusalem. Donc on voit que dans l'histoire des prophètes, ce n'est pas une exception d'être divinement utilisé, si vous voulez, pour assumer une mission. C'est chaque fois, vous le remarquerez, une série de missions. Alors, dans le Nouveau Testament, je n'ai pas fouillé tout l'Ancien Testament, mais c'est déjà pas mal. Dans le Nouveau Testament, on peut y ajouter toutes les disparitions ou apparitions du Seigneur. Hein. Il est au temple, il n'est plus. Hein. On veut lui casser la gueule, pouf, il a disparu, etc. Bon, pendant son ministère terrestre déjà. Okay. Et puis, on a son enlèvement, ou son élèvement au ciel, sa montée au ciel après la résurrection. Et puis, il y a comme ça toute une série d'autres textes.
Ouais, quand il apparaît tout d'un coup dans la pièce.
Oui, bon, donc c'est ça, apparition, disparition de Jésus, il y en a un petit paquet.
Alors, dans le Nouveau Testament, il y a d'autres personnes que Jésus qui ont été transportées comme ça. Qui ont été élevées ou transportées d'un endroit à un autre.
Philippe, oui, mais je ne sais pas si j'ai un autre cas. Par contre, on nous parle quand même d'un enlèvement assez carabiné, hein, dans plusieurs textes du Nouveau Testament. L'enlèvement de l'Église, un Thessalonicien, l'Apocalypse, etc. Donc, l'idée d'enlèvement a plusieurs significations, si vous voulez. Hein. On est enlevé pour une mission spécifique, ou on est enlevé pour être protégé, consolé, etc., etc. Ou on est enlevé pour aller vivre dans le vrai royaume, finalement, hein, si on s'en tient à l'Apocalypse.
Et dans la prison, peut-être.
Oui, je pense.
Oui,
à ça
donc il y a aussi celle-là, qu'on avait déjà vue d'ailleurs.
Ouais. Hein
oui, je pense qu'on pourrait dresser une petite liste.
L'Ancien Testament, s'il n'y a pas un certain. Et non, et Jean-Bé, oui. Parce qu'il marchait.
Ouais, c'est ça.
Oui, j'avais dit que je reviendrais sur la notion d'eunuque, parce que justement, peut-être cette disparition, cet enlèvement de Philippe, a aussi quelque chose à voir avec cela. Donc, vous savez peut-être que dans le Deutéronome, il était, c'est la loi, formellement interdit de castrer les hommes en Israël. Parce qu'il y a toujours une question de descendance. D'accord ? On est toujours le fils d'eux en Israël. On n'est pas fils de sa mère, mais on est fils de son père. Mm-hmm. C'est toujours comme ça qu'on le présente. Donc c'était important que tout ce qui est de l'ordre de la procréation ne soit pas annihilé par un acte chirurgical, entre guillemets, qui fait qu'on ne peut plus avoir d'enfant. Donc c'était banni, c'était interdit. Et c'est là que je voudrais bien retrouver ma note. Parce que là, c'est un souvenir de tête. Il y a un passage de l'Ancien Testament qui laisse entendre que, et je pense que c'est dans Ésaïe d'ailleurs, qui laisse entendre que si un étranger ou si un eunuque adhère au judaïsme, hein, entre autres, mais à Dieu,
hein, oui.
Met sa foi en Dieu, pratique le Shabbat et les sacrifices, alors il sera admis dans l'espace du temple. Donc cet eunuque qui normalement n'a pas le droit de citer en Israël, au travers d'une prophétie de l'Ancien Testament, prophétie à caractère messianique, parce que maintenant je me souviens que c'est dans Ésaïe, il faut que je retrouve la référence, mais peu importe, où au fond, dans l'annonce prophétique de l'arrivée du Messie, il y a cette possibilité que des païens ou des eunuques puissent faire partie du peuple de Dieu, puissent adorer le Dieu d'Israël, etc., etc. Et donc, on assiste ici, dans cette séquence avec annonce de l'Évangile, baptême et disparition, à la réalisation d'une prophétie messianique. Dans les temps messianiques, le païen, l'eunuque, pourra adorer le Dieu d'Israël pleinement. D'accord ? Donc, 56, c'était bien dans Ésaïe. « Bienheureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui le tient ferme, qui garde le sabbat, pour ne pas le profaner, et qui garde sa main de faire aucun mal. Et que le fils de l'étranger qui s'est attaché à l'Éternel ne parle pas en disant « L'Éternel m'a entièrement séparé de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec », car ainsi dit l'Éternel, « Aux eunuques qui gardent mes sabbats et choisissent les choses auxquelles je prends plaisir », et qui tiennent ferme mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et au-dedans de mes murs une place et un nom meilleur que des fils et des filles, sous-entendu Israël. Et je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Et les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, quiconque observe le sabbat pour ne pas le profaner, et ceux qui tiennent ferme mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, je les rendrai joyeux dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. »
Tu veux bien redire là ?
Donc, 56,
Ésaïe 56,
oh, tu peux le dire, Ésaïe 56, même avant.
Quel texte magnifique.
Ok. Mais donc ça a quand même son importance par rapport à notre histoire ici, parce que ça voudrait dire que pour tout lecteur juif ou de la voie messianique, tout le monde comprend que les temps messianiques sont en train de se dérouler sous nos yeux. C'est-à-dire que si maintenant le païen peut être admis, hein, sous couvert de Jésus-Christ, évidemment, dans le peuple d'Israël et adorer le même Dieu que nous, alors les prophéties se réalisent. Ce qui a été annoncé des centaines d'années auparavant est en train de se réaliser sous nos yeux. On peut peut-être aussi comprendre alors la suite du texte. Parce que quand même, vous ne trouvez pas un peu bizarre? Donc, l'Esprit du Seigneur emporte Philippe. Alors ça, c'est Luc qui le dit, évidemment. Et Luc l'a su par Philippe. Mais l'eunuque, lui, ne sait pas. Celui qui était à côté de lui, assis dans son char, n'est plus là.
Ouais.
Comme ça. Mais le texte nous dit, il poursuivit son chemin dans la joie.
Mais Luc aime bien la joie.
Ah oui, oui. Mais quand même, c'est bizarre, non? Une histoire pareille qui t'arrive. T'es en train de parler avec un gars qui est chouette, qui t'explique plein de choses. Il disparaît. Et tu restes quand même dans la joie.
La joie d'avoir été baptisé, quand même.
Ah, déjà. Oui, parce que l'eunuque ne le vit plus. Hein, tu vois, c'est un constat terrible. Mais il poursuivit son chemin. Je pense qu'il y a plein de raisons à cette joie.
Mais oui, je pense. Mais comme Marie, elle n'a plus vu l'ange, mais elle était dans la joie de l'Annonciation.
Exactement. Tous les prophètes n'étaient pas nécessairement dans la joie de ce que le Seigneur voulait leur faire dire. Non, je rigole, mais... Donc là, on est vraiment dans une situation extraordinaire.
La joie de la présence de Dieu en soi.
Alors, on pourrait faire une liste. Moi, je pense qu'on peut déjà dire, c'est la joie d'avoir rencontré Philippe, même s'il a disparu d'un coup. Hein, c'est quand même lui qui a éclairé d'un nouveau jour la foi au Dieu d'Israël. C'est-à-dire, jusque-là, il était un craignant Dieu, un prosélyte, mais il lui manquait des morceaux d'explication qui rendent sa foi encore plus belle. Et voilà qu'il rencontre Philippe. La joie aussi d'avoir compris enfin le texte d'Ésaïe, ce fameux quatrième chant du serviteur souffrant, et la portée que ça a pour le salut, alors des Juifs d'une part, mais aussi des païens, dont il est. Peut-être aussi la joie de la grâce, la joie d'être sauvé, accordée par cette foi messianique qui est devenue la sienne. Voilà. La joie du baptême, dont tu parlais tout à l'heure. La joie d'avoir été baptisé en Jésus. La joie aussi d'une foi confirmée et authentifiée, justement, par le caractère miraculeux de la disparition de Philippe. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette disparition ? Que c'était bien un homme de Dieu. C'est pas juste un gars qui connaît le grec et puis qui lui a inventé un baratin pour lui expliquer le quatrième chant qu'il comprenait pas, tu vois. Donc, franchement, un type qui t'explique tout et qui disparaît, ça laisse supposer qu'il est quand même un petit peu poussé par le divin. Hein, quelque chose qui est pas normal, quoi, qu'on voit pas tous les jours. Chaque fois que je bois un café avec quelqu'un, il disparaît pas. Oui, il y a quelque chose d'extraordinaire, de spécial.
Disparition.
Et donc, cette joie, c'est le cadeau qu'il remporte vers le royaume de Méroé. Il repart avec une joie immense, hein, vraiment. Et on estime alors qu'il est impossible à cet Éthiopien de ne pas avoir partagé sa joie avec les gens de son royaume.
On n'entend plus parler de lui après.
Non, mais alors j'ai quand même fait 2-3 petites recherches. D'un point de vue historique, on sait que dans toute cette région de l'Afrique, donc Afrique de l'Est, Nord-Est, si vous voulez, il y a premièrement l'Empire d'Abyssinie, qui correspond, si vous voulez, au territoire de l'Éthiopie actuelle et de l'Érythrée confondue, d'accord ? Un immense territoire est devenu officiellement chrétien au IIIe siècle. Religion d'État, si vous voulez. Et la fameuse Nubie, le fameux royaume de Méroé, l'est devenu au IVe siècle. Religion d'État aussi. Donc on voit bien qu'il a fallu qu'il se passe quelque chose pour que le judaïsme messianique devienne le christianisme local de cette immense région. Hein, si vous ajoutez Éthiopie, Érythrée, plus la partie sud vers le Soudan, ça fait un immense territoire en Afrique qui était totalement christianisé. Au point que dans les fouilles archéologiques pour l'Éthiopie et l'Érythrée, on a trouvé d'anciens temples païens, alors rabotés, si vous voulez, de ces idoles, dans lesquels on a transformé ça en église. Okay ? Et ça, c'est archéologique, donc on ne peut pas le contester. Donc on a du mal à imaginer qu'à une époque de notre histoire, ces contrées qui sont devenues plutôt musulmanes à l'heure actuelle étaient complètement christianisées. Alors, je ne dis pas que tout le monde était chrétien, parce que, bon là, qu'est-ce que ça veut dire une religion d'État ? Mais en tout cas, une religion, le christianisme avait la liberté d'exister, voilà, à tout le moins. C'est quand même intéressant. Et donc on peut se dire qu'un gars comme lui a sans doute participé à l'essor du christianisme dans cette région. Alors, dans nos versions, on a Azoth, mais vraisemblablement, ce serait plutôt Ashdod qu'il faudrait prononcer. Alors, Azoth, c'est une vieille ville, ancienne capitale des Philistins, elle aussi, comme Gaza, etc., le long de la côte. Hein. On la trouve d'ailleurs citée dans 1 Samuel 5, au verset 1 à 7, on parle d'Ashdod, justement. Elle est située à environ 30-40 km au nord de Gaza, le long de la côte, hein. Un petit peu plus haut. D'ailleurs, j'avais complété ma petite carte tout à l'heure, pour ceux qui sont trop curieux. Donc, je les montre à ceux qui sont ici. Donc, on a la côte, on a Jérusalem là, Gaza ici, Ashdod un peu plus haut, et Césarée, dont on parle dans le même verset, beaucoup plus haut, presque au nord, si vous voulez. D'accord ? Donc, on peut faire passer par là-bas. Donc, on nous dit qu'il se retrouve à Azoth, 30-40 km plus loin que l'événement qui vient de se passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Le transport est quand même express. Le télétransportage. Oui, c'est autre chose.
C'est entre Gaza et Ascalon.
Ah,
c'est encore plus haut. D'accord.
Alors, on suppose que sa destination n'est pas non plus liée au hasard. En fait, il a été déplacé de la Samarie, transitant par Jérusalem pour descendre vers le sud à Gaza, vers Gaza. Et donc, tout d'un coup, il est télétransporté ou enlevé, peu importe la formule, à la côte. Et il reprend son ministère comme il l'a fait en Samarie. D'ailleurs, le texte va nous préciser qu'il remonte toute la côte et il fait ça partout. Partout où il passe, il parle de Jésus, etc. Ça se poursuit dans les villes qu'il traverse, tout au long de la côte, jusqu'à Césarée. Alors, parlons un peu de Césarée quand même. Alors, ce qu'on peut déjà en dire, c'est que c'est un port, un petit port méditerranéen, qui se trouve quand même 75 km au nord d'Ashdod. Donc il y a une sacrée trotte quand même, hein, pour y aller. C'est d'ailleurs dans cette ville que Pierre se rendra pour rencontrer Corneille, à la demande de Corneille. Ça, on verra ça dans le chapitre 10. Et où Paul ira loger, chez Philippe. Parce qu'on découvre finalement dans le chapitre 21 que Philippe s'est établi à Ashdod, avec toute sa famille. À Césarée, pardon. Mais Césarée, c'est une ville presque neuve. C'est un peu comme si on allait... ville bâtie par Hérode le Grand en 13 avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même une ville assez récente dans l'histoire, bâtie sur des anciennes ruines de villes, etc. Et le christianisme s'y est implanté très très tôt. Le livre des Actes va la mentionner à plusieurs reprises, cette ville. Et le diacre Philippe, donc, en fait sa résidence permanente. On découvre ça ici, au verset 40, mais on découvrira aussi au chapitre 21, verset 8, que c'est là qu'il vit. C'est son centre particulier. On sait aussi que Paul vivra chez Philippe longtemps. Quand il est prisonnier, il vit finalement chez Philippe. Mais il est détenu pendant 2 ans dans cette ville avant d'être transféré à Rome. Okay. Alors, maintenant, revenons à nos moutons. Césarée, pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quand même la ville, la résidence habituelle du gouverneur romain de Judée. Contrairement à ce qu'on peut penser, le gouverneur romain, Ponce Pilate, ne vivait pas à Jérusalem. Il y passait pour des affaires. Il y passait 2-3 mois. Il retournait à Césarée. Césarée étant le lien vers Rome, le port qui pouvait les amener le plus directement à Rome. Et puis, là où il y avait le moins d'ennuis avec les Juifs, c'était quand même à Césarée. Voilà, parce que quand tu étais dans les montagnes ou le désert de Judée, tu n'avais pas envie de te trouver tout seul face à certains révoltés du monde d'Israël de l'époque. Quoi. Donc, je me dis que ce n'est pas anodin que Philippe se soit installé là, au cœur, finalement, de l'administration romaine, Et on voit d'ailleurs la conversion de Corneille, par exemple, avec Pierre. On se rend compte qu'il y a toute une stratégie d'évangélisation qui part du cœur même du pouvoir romain en Israël, en Palestine, si vous voulez, pour reprendre le mot romain. La volonté de s'adresser aux païens est manifeste dans le fait que l'évangile se propage jusque-là et va s'étendre à partir de là aussi, finalement, vers d'autres contrées. Alors maintenant, je me suis posé des questions sur les applications de tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait déduire de cette péricope, d'une part, globalement, mais aussi de cette section ici? Je me suis particulièrement moins intéressé au rite du baptême. Non pas pour savoir si c'est immersion, pas immersion, s'il faut baptiser des adultes ou des enfants, mais plutôt dans l'idée, il semble quand même que dans l'Église primitive, le baptême était accordé assez facilement, comme on l'a déjà vu dans d'autres textes des Actes. C'est-à-dire, il n'y a pas tout un tralala, on t'annonce l'Évangile point par point, et à partir du moment où tu l'acceptes, tu l'es baptisé, et même baptisé dans l'esprit, à la rigueur, tu vois. Bon, il y a quelque chose qui a l'air de couler, quoi.
Plus naturel, plus...
Plus simple.
Plus simple, oui.
Mais c'était dans les rites des Juifs
Les Juifs messianiques, on pourrait dire ça.
Oui. Après, non, voilà. Effectivement.
Mais pour le monde païen, non.
Non.
Je ne pense même pas que des rites d'être complètement immergés soient associables à des rites païens. Donc pour moi, c'est une découverte. Et c'est aussi se dire que lorsqu'un homme d'origine juive ou païenne adhère à l'Évangile... accepte le Christ Jésus dans sa vie, illico presto, il est baptisé. À sa demande, les trois quarts du temps d'ailleurs. Pourquoi nous on fait...
Ah oui, pourquoi on se complique tout?
Pourquoi nous on complique tout?
On n'explique pas non plus que le baptême...
Non, mais quand l'Église... Écoute, il y a quand même des milieux d'Église...
Tu suis des cours pendant des semaines, des mois
parfois.
Oui, et on encore. Peut en perdre avec ça, parce que t'en as qui perdent courage.
Alors, évidemment, si tu as affaire à une personne...
C'est rien, c'est Noël.
Une toute nouvelle personne qui ne connaît rien à rien... À la limite, qu'il y ait une catéchèse pour l'ancrer dans la foi, ça je comprendrais.
C'est ce qui s'est passé chez nous aussi. C'était la personne qui voulait réellement, il voulait, etc. Il était limité, je vais dire,
intellectuellement,
et ça l'a complètement.
Il n'est même plus venu à l'église.
J'ai suivi à un moment donné une leçon avec lui, je ne l'ai donné pas, mais j'ai suivi. Mais j'ai dit, mais enfin, c'est pas possible.
Vous comprenez pas,
j'étais perdu. Vous ne comprenez pas certaines choses. Alors, si, c'était peut-être le même niveau. On ne discuterait pas. Mais j'ai dit, je me suis posé la question. Qui est honnête, qui vient de cœur. C'est ça qui comptait. Et faire vraiment. Avoir foi et faire un vœu de vraiment de croire. C'est pour moi, c'était pas un sens. À la limite, j'ai même pensé, un gars qui serait intellectuel pourrait tricher.
Oui.
Pourrait roubler, tu vois.
Oui,
souvent, quelqu'un qui est simple d'esprit, il est souvent,
spontané,
naturel, honnête, direct. Tu vois Qu'est-ce que tu...
Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer que Philippe pourrait expliquer alors la signification du baptême? Tu vois, façon d'être
si lui est un craignant Dieu, il a donc l'habitude déjà des ablutions rituelles avant d'aller au temple. Donc, c'était facile de faire le lien avec ce que tu viens de dire. Comment ne pas présenter alors le baptême en Jésus-Christ, qui est un nouveau signe, et le signe d'une alliance messianique, finalement.
On a des indications dans les Actes pour savoir au nom de qui il baptisait. Est-ce qu'on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que c'est déjà acté?
Au nom de Jésus, certainement, en tout cas. Mais la formule... J'allais dire magique, que tout le monde comprenne bien. La formule rituelle, à mon avis, elle est beaucoup plus tardive.
Elle est plus tardive.
Quand l'Église commence à être importante et a besoin d'être gérée, suivie, etc. Mm-hmm.
Quelqu'un qui est nouveau, qui arrive en Christ, comprendre le Saint-Esprit, c'est pas toujours évident.
Ah, ça, comment te dire.
Mais c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Donc, il faut, comme je veux dire, faut pas trop assommer d'incompréhension quand tu fais ça. Du moment qu'il y a une foi sincère, qui a un fond vraiment, et là, c'est pour qu'on questionne là-dessus.
En fait, c'est avec Paul qu'on va découvrir une des significations, sans doute le message annoncé à ce moment-là. C'est la mort à soi et la résurrection à la vraie vie. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu nécessairement au tout départ de l'Église primitive des formules liturgiques toutes faites. Elles auraient pu être toutes faites si elles étaient issues du judaïsme directement.
Ouais.
Mais ce n'est pas le cas.
Je ne sais plus. Enfin, c'est dans les actes. Il y a un moment, il y en a, comment on dit, qui sont baptisés, mais qui ne savent pas que le Saint-Esprit existe.
Voilà. Donc ça laisse supposer qu'effectivement la formule magique n'existait pas encore, pas comme nous la connaissons nous aujourd'hui.
C'est un degré en plus, c'est juste.
Et être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça a du sens à partir du moment où on accorde une importance à la Trinité, c'est-à-dire au même Dieu. Mais c'est trop tôt dans l'histoire de l'Église à ce moment-là que d'avoir cette perspective d'une triple personne en Dieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les Juifs de l'époque, c'est comme les musulmans d'aujourd'hui.
Ouais.
Tu peux pas évoquer une triunité. Non. Même ça, c'est pas possible, puisqu'il y a unicité. Ce que je peux comprendre. Donc la voie messianique, elle était un peu problématique pour les Juifs qui veulent rester Juifs. Ouais. Puis en même temps, voilà, après, chacun a fait sa route. Voilà, donc application, est-ce que vous en voyez d'autres?
Par rapport au baptême, je me dis aussi qu'un point qui est différent avec le baptême 6, c'est que ce n'est pas non plus un témoignage public. Ils ne sont que deux.
Ah non,
oui. Bien enfin, qu'il y ait la petite caravane avec eux.
Oui,
oui.
Il avait expliqué qu'il n'était pas seul, quoi. Quelqu'un de 130 n'est pas seul sur son petit chat et avec.
Oui, c'est sûr.
Dans une zone d'escorte.
D'ailleurs,
c'est un désert. C'est une route
caravanée. On a quand même la preuve de ce que je vous ai dit la fois passée, c'est qu'il donne à l'ordre d'arrêter son chat.
Ouais.
À qui donne-t-il l'ordre s'ils ne sont que tous les deux? Il ne dit pas à Philippe, arrête mon chat. Donc il faudrait bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui s'en occupe. Moi, je rigole, mais puis tu ne déplaces pas un ministre
d'État
tout seul dans la Judée.
Vraiment, ça a apporté beaucoup.
Même si tu empruntes les voies
quand
romaines.
Tu, dis, tu ne te rends pas compte. Oui. Hein. Oui. On a l'impression qu'il est là tout seul avec son petit chat. Mais moi quand je lis le passage, mais c'est vrai, quoi.
Seul, hein. Il se promène.
Il se promène, quoi, mais c'est vrai.
C'était quand même personne.
Il a juste 1500 bornes à faire, c'est tout.
Oui, c'est ça, quoi.
C'était quand même quelqu'un d'important.
Oui.
Donc quelqu'un est important, il n'est pas tout seul.
Serviteur, sécurité, tout ce que tu veux. Ben oui, c'est une évidence. Plus peut-être des marchandises, hein, parce que c'est la route, c'est la route de l'Orient.
Oui, il n'y allait peut-être pas que pour ça, il a ramené des petits.
Il est peut-être allé faire affaire à Jérusalem.
Oui, tout à fait.
Trafiquant des puces. C'est vrai.
Voilà. Bon, Anne-Catherine, t'avais parti sur un truc sérieux, mais je vois que...
C'était foireux, c'était foireux.
Non.
Ah non.
Oui, parce que maintenant,
on
parle plus de tout. Il faut, devant la communauté, rendre témoignage, tout ça.
Mais on complique.
Mais en même temps, je suppose que le fait qu'il se fasse baptiser devant tous ses serviteurs ou pas, c'est aussi un témoignage.
Oui.
Et que bon, ça a dû questionner certains.
Oui.
Qui préparent le baptême.
Oui,
c'est ça.
Oui, mais on a compliqué les choses. C'est quelque chose qui était naturel, en tout cas chez les Juifs. Les bains, ça, ils connaissaient, ils entraient dans, je sais pas moi, 5 fois le mois,
chaque fois qu'il l'estimait nécessaire.
Ouais, voilà.
Si j'ai conscience d'avoir péché, pourquoi pas un petit bain rituel?
Oui, c'est ça.
Et à la limite, comme ça se passe sous les yeux de tout le monde, tout le monde sait que tu as des
couilles. Oui.
Non, encore, mais c'est pas ça, tu imagines.
Encore une fois, quoi, lui.
Oui, c'est vrai.
Ah oui.
Non, on n'imagine pas, nous, on croit tout ça, ça se passe en cachette, mais non.
J'ai pas pensé.
T'as des mikvés pour les femmes, des mikvés pour les hommes, et puis tout le monde voit que tu vas te plonger dedans, c'est que tu as un petit problème. Tu as dû faire quelque chose de pas bien envers l'Éternel.
Non.
Dans l'Église catholique, c'était les confessionnaires.
Ben oui, ben oui. Ah. Oui, c'est la même chose. Quand il est entré, on se dit, qu'est-ce qu'il a encore fait?
Ouais. Oh. Ouais. Chose grave. Ok.